Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Car oui, l'épisode de pollution atmosphérique se poursuit aujourd'hui en France, en particulier dans le Nord, le Pas-de-Calais, en Ile-de-France, dans le Rhône. En Ile-de-France, les concentrations en particules fines dans l'air ont dépassé la semaine dernière le seuil d'information, alors que les particules fines provoquent 48 000 morts par an en France. De quoi se constitue la pollution de l'air? La voiture est-elle la principale responsable de la pollution de l'air? Et les politiques publiques contre cette pollution de l'air sont-elles efficaces? Bonjour Jean-François Doucin.
Bonjour.
Vous êtes professeur en chimie atmosphérique à l'université de Paris-Est Créteil, chercheur au LISA, le laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques du CNRS. Il faut d'abord nous dire ce que sont ces particules fines.
Alors, les particules fines sont des poussières, liquides ou solides, en suspension dans l'atmosphère. Elles sont extrêmement petites, puisque elles vont de quelques micromètres jusqu'à quelques nanomètres. Donc, on est dans le milliardième de mètre. On est dans des particules qui sont composées de quelques milliers de molécules, à plusieurs centaines de milliers de molécules. Mais elles sont extrêmement fines.
Extrêmement fines, et elles sont produites par les voitures, par les systèmes de chauffage, dit-on, chauffage à bois, c'est ça?
Alors effectivement, elles sont produites notamment par tous les systèmes de combustion, et donc les voitures, effectivement, le chauffage au bois, les foyers ouverts, les feux de jardin sont une source de particules fines extrêmement importante. Elles sont aussi produites par la conversion chimique de gaz en particules qui vont donner parmi les particules les plus fines.
Uniquement les voitures diesel ou bien les voitures à essence créent-elles également des particules fines, Jean-François Doucin?
Non, alors les voitures diesel émettent, sont de forts émetteurs de particules fines, mais les voitures à essence émettent aussi des particules, et surtout la transformation des polluants, y compris des polluants gazeux qui sont émis aussi par les voitures à essence, vont conduire un peu plus tard dans l'atmosphère à la formation de particules.
Et puis j'ai lu aussi que les garnitures de frein, ce genre de choses, produisait également des particules fines, bref, qu'il n'y avait pas seulement les moteurs.
Alors effectivement, les processus de combustion sont importants dans la production de particules, mais les processus mécaniques, donc tout ce qui produit du frottement, les freins, l'abrasion des pneus sur les routes, l'abrasion des routes, et même l'érosion éolienne naturelle produit des particules.
Bref, l'idée d'interdire les voitures anciennes, est-ce une idée efficace? Y a-t-il effectivement moins de particules fines produites par les voitures les plus récentes? Et si oui, pourquoi, Jean-François Doucin?
Alors, il faut reconnaître que les constructeurs automobiles, ces dernières décennies, ont fait d'énormes efforts, notamment pour se conformer aux réglementations, et que, effectivement, les émissions automobiles ont fortement décru ces dernières décennies. Donc, il y a donc une logique, évidemment, à...
D'accord, ça s'est avéré.
Oui, c'est avéré.
Et alors, si c'est avéré, pourquoi parle-t-on de plus en plus de la pollution à particules fines? Est-ce qu'auparavant, on ne s'en souciait pas du tout? Est-ce que c'est la multiplication des voitures qui fait que, on a l'impression, peut-être à tort d'ailleurs, que ces épisodes de pollution liés aux particules fines sont de plus en plus fréquents?
Alors... oui, effectivement, d'une façon générale, alors ça dépend à quelles échelles de temps on regarde, mais si on s'intéresse aux quelques dernières décennies, la situation de la pollution atmosphérique s'est plutôt améliorée. Mais nos pratiques de vie aussi se sont elles aussi améliorées, et il devient de moins en moins peut-être acceptable de connaître les problèmes sanitaires qu'induisent la pollution atmosphérique et les particules fines en particulier.
Et alors, semble-t-il, il y a un lien entre donc la circulation automobile, les différentes sources de polluants à particules fines et les conditions météorologiques qui sont exceptionnelles, puisque aujourd'hui, par exemple, on attend des températures qui sont au double des moyennes de saison, au double, c'est quand même considérable. Et là aussi, on se demande, Jean-François Doucin, quel est le lien entre la météo et ces particules fines?
Alors, il faut d'abord préciser qu'il y a plusieurs types d'événements de pollution. On a les événements de pollution d'été, les événements de pollution de printemps et ceux d'hiver. Et ils sont chacun caractérisés par des situations météorologiques et par une chimie de l'atmosphère bien caractéristique. Les événements qu'on connaît depuis deux semaines à Paris sont assez typiques des événements d'hiver. divers, c'est-à-dire qu'on a la formation d'une couche d'inversion, c'est-à-dire que nous vivons dans ce que l'on appelle la couche limite atmosphérique, les premiers mètres de l'atmosphère. Cette couche limite fait normalement de l'ordre de 1000 mètres de haut. Seulement, dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui, elle fait de l'ordre de 200 mètres. On a donc les mêmes émissions que d'habitude, parfois un peu plus fortes quand il fait froid la nuit, mais dans une boîte qui est 5 fois plus petite. Donc très clairement, ça fait exploser les concentrations, aussi bien de particules, mais pas seulement. Les oxydes d'azote aussi ont été à des concentrations très élevées.
Les oxydes d'azote.
Donc les oxydes d'azote, le NO, le NO2, qui sont émis par les combustions et qui font partie des polluants réglementés et qui font partie de la pollution atmosphérique.
Et les deux autres épisodes, puisque vous parliez d'épisodes de printemps et d'été, alors eux, en quoi ils consistent ?
Alors, au printemps, on a une formation de particules qui est une conversion chimique, qui est liée aux émissions agricoles qui viennent se mélanger avec la pollution urbaine. Et on va former des couches de pollution très importantes, très étalées d'un point de vue spatial. On a des événements qui peuvent prendre tout le nord de la France, tout le Benelux. Et en été, on rencontre ce qu'on appelle les pics de pollution à l'ozone, qui sont liées à la transformation des polluants dans le panache des grandes villes. Et on a une pollution qui va se développer au cours des heures. On est dans ce qu'on appelle des pollutions secondaires. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on injecte dans l'atmosphère qui va poser problème, mais c'est ce en quoi ces injections vont se transformer.
Quelle partie de la France est-elle touchée ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a uniquement les grandes villes qui sont touchées, mais en fait, ce n'est pas réellement le cas, Jean-François Doussin.
Alors, quand on parle de pollution atmosphérique, ce qui est très important, c'est de comprendre à quelle échelle on parle. Et donc, évidemment, il peut y avoir telle ou telle zone industrielle qui va être particulièrement touchée. On connaît la situation de l'étang de Berre, par exemple, la situation de la vallée de la Seine, Notre-Dame de Gravenchon, parce qu'il y a des activités industrielles très fortes. Donc ça, on est sur des échelles relativement réduites. Après, on a évidemment les grands centres urbains qui sont liés à des émissions fortes et parfois à une transformation des polluants un peu difficile. Et puis, on a des cas comme la vallée de l'Arve, la vallée de Chamonix, qui fait partie d'un des endroits les plus pollués de France.
Pourquoi ? Parce que donc là, on a des phénomènes de vallées encaissées.
Oui, alors pour ce qui est de la vallée de l'Arve, on a une combinaison de facteurs. On a d'abord une topographie, donc une vallée encaissée, une circulation routière très importante puisque c'est un axe majeur du transport routier européen entre la France, l'Italie et ensuite vers l'est de l'Europe. On a une pratique de chauffage au bois qui est aussi très importante, et le fait que la vallée soit encaissée crée des couches où ça ne se mélange pas. Les polluants ne se mélangent pas très efficacement.
Et puis, on imagine que ces particules fines, elles sont transportées par le vent, par les différents phénomènes météorologiques et atmosphériques. Ce qui veut dire que lorsqu'on interdit dans une ville, par exemple, la circulation à tel endroit, est-ce que ça a vraiment des conséquences, Jean-François Doussin ?
Alors, vous avez tout à fait raison. Ce qui est important, c'est de comprendre la question de l'échelle spatiale à laquelle on parle. Évidemment, si on habite tout près d'une source, tout près d'une zone industrielle ou sur un axe routier important, on va directement être impacté parce qu'il se produit immédiatement à proximité. Néanmoins, on parle de phénomènes qui peuvent avoir des extensions de plusieurs centaines de kilomètres. Alors, si votre question est de savoir est-ce qu'on sait évaluer l'efficacité des réglementations ou des politiques qui sont mises, effectivement, les chercheurs, les organismes de recherche comme le CNRS ou l'INERIS développent des modèles qui nous permettent de prévoir l'évolution de la pollution. Dans ces modèles, on sait parfaitement changer des sources, affaiblir certaines sources pour mesurer l'efficacité de telle ou telle pratique.
Pourquoi ces particules fines sont-elles dangereuses ? Et plus elles sont petites, plus elles sont dangereuses, c'est ça, Jean-François Doussin ?
Alors effectivement, notre appareil respiratoire est fait tel qu'on va filtrer l'essentiel des particules qui sont plus grandes que 10 microns de diamètre. C'est pour ça qu'on s'intéresse au PM10, c'est-à-dire les particules plus fines. Mmh. Et celles qui sont encore plus fines, c'est-à-dire celles qui sont plus petites que 2,5 micromètres, les PM2.5, elles vont pouvoir pénétrer au-delà de la trachée jusque dans le système pulmonaire. Plus elles sont encore plus fines, c'est-à-dire quand on rentre dans le nanomètre, elles vont pouvoir aller jusque dans les bronchioles et certaines vont même être métabolisées et on en retrouve dans la circulation sanguine et même dans certains organes, dont le cerveau par exemple.
Et alors pourquoi c'est dangereux ?
Alors, ces particules peuvent contenir des milliers de composés chimiques différents. parmi ces composés, certains sont susceptibles d'être toxiques, d'être cancérigènes, d'être des irritants. Et on retrouve des effets qui sont des effets cardiovasculaires. On retrouve des effets, évidemment, pulmonaires. Il y a des irritations des voies pulmonaires. On retrouve même des effets cérébraux avec des effets sur les fréquences d'accidents cérébrovasculaires ou aussi troubles cognitifs.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir une augmentation donc des incidents pulmonaires, cardiaques, des AVC également liés à cette pollution aux particules fines.
Alors, effectivement, et on observe aujourd'hui que si l'on ramenait la concentration, ça c'est une étude de l'Institut de veille sanitaire, Santé publique France maintenant, qui s'appelle l'étude AFECOM, et qui montre que si on ramenait la concentration de particules fines à la norme ou à la recommandation de l'OMS, alors on pourrait gagner dans des villes comme Lille, Paris ou Lyon 6 mois de vie en moyenne.
Mais alors comment fait-on ces calculs? Parce que c'est toujours un peu mystérieux. Du coup, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On dit 500 000 morts à l'échelle européenne, 48 000 morts à l'échelle française. C'est un peu compliqué de comprendre comment on trouve ce nombre de morts.
Alors évidemment, moi je ne suis pas épidémiologiste. Hein. L'épidémiologie est une science à part entière, une science qui s'appuie largement sur les statistiques. Néanmoins, les médecins et les épidémiologistes ont développé des méthodologies tout à fait fiables pour extraire les différents facteurs de risque de l'observation d'une mortalité d'une population. On a aussi des effets à court terme, c'est-à-dire que le Santé publique France a fait une étude dans 17 villes françaises qui montre qu'on a une augmentation des hospitalisations à court terme derrière les pics de pollution en particules fines.
Alors, on comprend bien qu'il y a certaines de ces particules fines qui sont composées de produits chimiques qui peuvent être irritants, cancérigènes. Alors là, on voit bien leur nocivité. Sur la taille, est-ce que la taille et le fait que ces particules sont si fines qu'elles s'immiscent de manière extrêmement profonde dans notre organisme, est-ce que cette taille est en soi un facteur de dangerosité, Jean-François Doussain?
Alors, évidemment, plus la particule va être fine, moins elle va porter de charges chimiques. Mais en même temps, elle va avoir cette capacité à aller pénétrer très profondément dans l'organisme et à être métabolisée et à aller délivrer son message chimique, si j'ose dire, au sein de l'organisme. Et donc, effectivement, jusqu'à présent, on considère que ce sont les particules fines qui sont les plus dangereuses parce qu'elles vont aller irriter dans les endroits qui sont dédiés à l'échange dans notre corps.
Est-ce qu'il y a des parades? On voit de plus en plus de gens porter des masques. Est-ce que, par exemple, ça peut avoir une quelconque efficacité?
Alors, jusqu'à présent, les masques n'étaient pas très efficaces. De nouveaux masques sont sortis, qui sont à base de filtres HEPA, haute efficacité, comme on dit, qui semblent être beaucoup plus efficaces. Mais avouons-le, c'est quand même une solution un peu triste que de devoir porter un masque pour sortir dans la rue.
Ça, c'est triste, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher les enfants de sortir, de jouer? Là aussi, il y a eu beaucoup de commentaires à ce sujet.
Alors, quand on fait du sport, quand on a une pratique physique, on va augmenter sa ventilation, donc le volume d'air respiré, on va augmenter les échanges, et donc on va augmenter la quantité d'air filtré par jour, et donc c'est clair que le pic de pollution n'est pas le bon moment pour aller faire de l'exercice. Faut quand même préciser que l'on passe la plupart du temps, 90% de notre temps à l'intérieur, et que vous avez aussi une pollution atmosphérique spécifique à l'intérieur des bâtiments.
Laquelle ?
Eh bien, il faut voir que, bien sûr, nos bâtiments sont en échange permanent avec l'air extérieur. On va aspirer l'air extérieur et on va aspirer la pollution extérieure à l'intérieur. Et celle-ci va réagir avec les matériaux de fabrication, avec les peintures, les moquettes, les textiles. Et puis, on va y émettre avec de l'encens, des insecticides, des désodorisants, des activités de cuisine. On va émettre aussi des produits chimiques qui vont se convertir également en particules fines.
Ça veut dire que finalement, il n'y a pas tellement de salut. Si à l'intérieur, il y a des polluants, à l'extérieur aussi, ça devient...
Ça veut dire qu'il faut adapter nos pratiques quotidiennes, aussi bien Pour ce qui est de la pollution extérieure, l'organisation de la société, l'organisation de la ville, notre rapport au transport, à la voiture, mais à la dépense énergétique en général, ça veut dire aussi qu'à l'intérieur, il faut adapter nos pratiques. Celui qui va porter un masque pour faire du vélo dehors et qui arrive chez lui va allumer un bâton d'encens, peut-être qu'il doit se poser des questions.
Et les politiques publiques sont-elles adaptées? Parce que donc on évoque beaucoup de choses. Alors il y a eu toute la polémique au sujet du diesel, on a beaucoup incriminé ce type de carburant. Est-ce que c'est l'un des leviers sur lesquels on peut jouer? Est-ce qu'il en existe d'autres, Jean-François Doussain?
Alors c'est clair que en termes de politique publique, la France a toujours eu un rapport au diesel qui était un rapport dans lequel on va dire que le paramètre qualité de l'air et particules fines n'était pas forcément le paramètre dominant dans les choix qui pouvaient être menés.
Peut-être ne le savait-on pas? Est-ce qu'on le sait depuis longtemps du caractère dangereux de ces particules fines dans le diesel?
Oui, les scientifiques le savent et j'ai fait mes études il y a plus de 25 ans maintenant et on savait déjà que les émissions automobiles et les émissions diesel étaient source de particules fines.
Il y a 25 ans, mais il y a 50 ans, lorsque la France a commencé à développer des moteurs diesel et à devenir championne du monde de ce type de moteur avec les Allemands.
Non, c'est clair aussi qu'il y a 50 ans, la répartition des sources de pollution était très différente et la part de l'industrie, des émissions industrielles était beaucoup, beaucoup plus forte. Et puis le nombre de véhicules était différent également. Néanmoins, on sait aujourd'hui que les émissions automobiles doivent être réglementées, que les pratiques automobiles doivent être réglementées. Et on a des outils pour vérifier l'efficacité de ces réglementations.
Mais alors du coup, on ne comprend pas très bien pourquoi on met autant de temps à installer la circulation alternée, pourquoi il y a autant finalement de tergiversations, s'il y a des certitudes sur les causes de cette pollution et puis sur sa nocivité, puisque vous semblez, en tant que scientifique, Jean-François Doussain, n'avoir absolument aucun doute sur les causes de cette pollution.
Alors, on met du temps et on a des difficultés à implémenter les politiques adéquates aussi parce que elles interrogent très profondément l'organisation de nos sociétés, l'organisation de la ville. Et ça interroge des enjeux qui sont très larges. Et en même temps, c'est pas seulement l'organisation de la société, mais c'est aussi les pratiques individuelles. Et donc, ce que vous et moi sommes disposés à faire. Et on sait très bien, même il y a d'autres. Moi, je compare souvent, par exemple, au rapport au tabac. On sait très bien que c'est dangereux et on a parfois du mal à s'en passer.
Merci beaucoup, Jean-François Doussain, de nous avoir éclairé sur cet épisode de pollution. Je rappelle que vous êtes professeur en chimie atmosphérique à l'Université de Paris-Est, Créteil.